Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Et le voici, le moment que vous attendez toutes et tous, le Mag Loisir du samedi avec une équipe chauffée à blanc.
Ouais.
Et il n'y a que des vainqueurs parmi nous, des vainqueurs qui vous emmèneront dans la prochaine demi-heure à la rencontre de belles découvertes, un peu comme Frédéric Lopez dans Rendez-vous en Terre Inconnue, mais vous enlevez l'avion et le pays lointain, vous ne gardez que les yeux bandés en fait, hein, voilà, fonctionne comme ça. Éric Bastien vous présente l'actu musique.
Bonjour.
Vanessa Lambert, vous c'est le sport.
Bonjour.
La lecture avec Frédéric Le Ternier.
Salut tout le monde.
Alexis Thiébaud se charge aujourd'hui du cinéma.
Bonjour, bonjour.
Et Patrice Gascoigne de la télé.
Ah que coucou.
Voilà, vous aurez la lourde tâche, Patrice, de clore l'émission. Et vous avez choisi de nous parler du plus beau pays du monde. Et chacun sait que c'est l'Allemagne de l'Est.
Et alors pas du tout. Direction les Alpes. Les Alpes, comme vous ne les avez jamais vues, hein, pas celle des tire-fesses. Non, celle des ours, des aigles et des loups.
Ce qui n'empêche pas le tire-fesses non plus. Le Salon de l'Agriculture édition 2019 s'ouvre aujourd'hui. France Bleu y déploie un dispositif spécial toute la semaine pour vous le faire vivre au plus près. Mais vous, Éric Bastien, vous avez pensé à un quiz très spécial dans l'actu musique.
Oui, j'ai même interviewé une artiste qui sera avec nous tout à l'heure.
Oh. Hey.
Voilà.
C'était vendeur, non?
C'était qui?
Écoutez, c'était un beau moment de solitude. Voilà, merci. J'espère au moins qu'il y aura du Pierre-Luc Cheval, un chanteur originaire d'Arras. Voilà, dans l'actu sport, Vanessa Lambert, vous nous ferez découvrir ou redécouvrir la personnalité de Jacques Ferrand, grand journaliste sportif qui vient de nous quitter à l'âge de 98 ans.
Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais en fait, indirectement, vous le connaissez, j'avais envie de lui rendre hommage.
Et oui, on lui doit notamment l'invention de la Ligue des Champions, vous savez, celle que le PSG va gagner cette année. Si vous êtes plutôt lecture, eh bien, sachez d'abord qu'on ne vous juge pas, et puis non. Dans son conseil, Frédéric Le Ternier vous parlera d'une jeunesse en fuite, les mémoires de Pascal le Grand Frère.
Non, pas du tout. Non, les mémoires d'un auteur, il nous parle des années 90, de son adolescence, de Brest et de l'Arabie Saoudite.
J'y étais presque. Enfin, dans 30 secondes à peine, Alexis Thiébaud, vous rendrez hommage à un grand couturier disparu lundi. Son accent allemand, lorsqu'il parlait français, nous ramenait à chaque fois au film Le Jour le plus long. Attention les Américains, ils arrivent. Karl Lagerfeld a tourné dans quelques films. On fait le point tout de suite dans l'actu ciné d'Alexis Thiébaud. Le Mag Loisir du samedi, c'est parti.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Et oui, une figure de la mode nous quitte donc, Karl Lagerfeld. Alexis Thiébaud, ça vous a donné envie de nous parler de ce génie français?
Français, non, allemand.
Oui, mais c'est français, c'est ce qu'il a écrit.
Oui, effectivement, c'est une erreur de ma part.
Alors, pas côté mode, mais côté cinéma.
Oui, vous allez comprendre pourquoi, effectivement, pour moi, Karl Lagerfeld est français, parce qu'en fait, il est arrivé à 18 ans en France, il y a vécu toute sa vie, tout simplement. Donc, il est quasiment plus parisien, plus français qu'allemand. Mais en tout cas, Karl Lagerfeld, je vais vous en parler, parce qu'effectivement, il a joué au cinéma. Alors, devinez quel est le rôle qu'il a le plus interprété au cinéma.
Bah, le sien.
Berger allemand. Et bah, exactement, tout à fait. Pas berger allemand. Vanessa Lambert, bonne réponse. C'est lui-même. Lui-même, il a joué son propre rôle. Faut dire que c'est un personnage à lui tout seul. Alors, il était capable de sortir des phrases que même les meilleurs scénaristes n'auraient jamais imaginées. Première apparition, en tout cas, sur grand écran, dans L'Amour, un film underground, d'Andy Warhol. Sorti en 73, alors je ne vais pas vous mentir, très peu de gens l'ont vu, hein, ce film. Il y a très peu de dialogue, beaucoup de sexe de femmes à l'écran, et une scène durant laquelle Karl Lagerfeld roule une pelle durant 17 minutes à une actrice.
Ah oui. Ah ouais.
C'est un peu perché comme film, mais c'est à voir au moins une fois, notamment si vous aimez les sexes, hein, crus, voilà. Mais c'est artistique.
D'accord.
Non, voilà, c'est artistique, c'est pas du porno, mais c'est artistique, faut le voir. Et il y a Karl Lagerfeld avec les cheveux noirs.
C'est un plaisir de vous regarder vous démener d'un sujet pareil, Alexis Thiébaud.
Premier film en 73, donc, et puis plus rien pendant 30 ans. Il a fait une pause de cinéma pendant 30 ans. Il est devenu une star, évidemment, de la mode, hein, durant ces trois décennies, mais son retour au cinéma, eh bien, c'est en 2006, dans La Doublure de Francis Weber, un film dans lequel il joue son propre rôle.
Évidemment.
Bravo! Bravo!
Merci d'être venu.
C'était vraiment une de vos plus belles toilettes.
Ah, malheureusement, ça ne fait pas la prochaine. Vous voyez, je suis jamais content.
Voilà, Karl Lagerfeld dans La Doublure de Francis Weber avec
En même temps, quand on est couturier, une doublure, hein, c'est.
C'était avec Gad Elmaleh et Alice Taglioni.
Oui, effectivement. Lagerfeld qui va également prêter sa voix pour le cinéma. Alors, c'est une voix reconnaissable entre mille.
Effectivement, 2007, il prête sa voix à un personnage du film d'animation Frankie Snow. Alors, pas n'importe quel personnage, puisqu'il joue, là encore, son propre rôle. Et oui, on va le voir aussi dans beaucoup de documentaires, hein, comme Lagerfeld Confidentiel, Valentino le Dernier Empereur, The September Issue. Désolé pour cet accent anglais absolument lamentable. Et puis en 2011, on le voit dans le film Hollywood.
Ah oui, avec Florence Foresti.
Florence Foresti, ouais. Jamel Debbouze, chef-d'œuvre du 7e art s'il en est. Et là encore, Karl Lagerfeld joue son propre rôle, effectivement. Et notamment dans cette scène où Florence Foresti rencontre Karl Lagerfeld à un cocktail et fait semblant de le connaître.
My friend, évidemment.
Carl, hi.
Great to see you. You look great.
Thank you so much. Nice.
Hey, Carlito, on s'est pas vu depuis quand. Les lustres, t'es encore ta couette, c'est bien. On s'est connus, on n'était pas nés, c'est pas compliqué. Tu vas bien, les gosses, ça
on
va.
On connaît une folle.
Ah, sacré cœur. Ça va marcher, les tailleurs en tweed, hein, Karl. Fais gaffe.
Hein. Et puis un autre film dans lequel Karl Lagerfeld a prêté sa voix, cette fois-ci en 2009, c'est Totally Spies, un film dans lequel il joue
son propre rôle. Oh,
eh ben non, cette fois-ci, c'est un rôle de composition. Paf, il interprète Fabu, un ancien mannequin déchu qui s'est donné pour mission de relooker le monde.
Pour tout vous dire, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Mon apparence m'a valu que des moqueries. Alors, je me suis créé ce look parfait dans l'espoir de devenir un célèbre top model. Mais personne n'a su m'apprécier à ma juste valeur. Personne jusqu'à ce jour. Car maintenant que vous avez tous adopté le look fabuleux, j'ai pris ma revanche sur cette injustice. Je vais pouvoir faire exploser la Terre et éliminer ainsi tous les non-fabuleux.
Voilà, il est pas mauvais, hein.
Et il est bien, hein, ah, franchement. Oui, il est très très bon. Totally Spies, donc, un film d'animation. Puis si vous voulez voir également une petite pépite, je vous invite à regarder en 2012, c'est son dernier tournage, le clip de Jean Rock, dans lequel il apparaît aux côtés de Snoop Dogg. Il joue le rôle de Dieu. C'est merveilleux. C'est à voir.
Merci beaucoup, Alexis Thiebaud. Moi, j'ignorais totalement que Karl Lagerfeld eut une carrière cinéma. Merci de nous l'avoir rappelé. Que lisait Karl Lagerfeld? On ne sait pas. Mais beaucoup de livres. Il a une énorme bibliothèque à la maison. Bah, ça tombe bien. Voici la transition. Toutes trouvées, on passe à la lecture.
Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Et la lecture, c'est avec vous, Frédéric Le Ternier. Vous nous proposez aujourd'hui un roman initiatique.
Oui, en quelque sorte, car de jeunesse, il est plutôt question. Mais je dirais que c'est davantage un livre nostalgique, comme à chaque fois finalement qu'un auteur écrit sur ce moment si particulier de la vie, l'adolescence. Dans Une jeunesse en fuite, c'est le titre, le protagoniste donc revient le temps d'un été en Bretagne, dans la maison de ses parents, non loin de Brest. Il passe ses journées dans la torpeur du mois de juillet avec sa fille, et puis il se souvient des années 90 et de la guerre du Golfe. Son père avait été à ce moment la médecin militaire pour l'Arabie Saoudite.
Ah, papa, laissez-moi deviner, il va donc nous faire revivre ses souvenirs.
Non, davantage que cela, Arnold, s'il vous plaît, oui. Pour ceux qui l'ont vécu, il nous fait revivre la période entièrement. Il va d'abord relire les lettres que son père envoyait depuis le Moyen-Orient, parce que notre héros écrivain souhaite que ce soit le sujet de son prochain livre. Et donc tout revient par petites touches, comme vous savez lorsqu'on fouille et que les couleurs, les odeurs, les ambiances, elles vont remonter petit à petit à la surface. C'est ce qui nous construit, mais on le sait, tous ces errements ont un goût doux amer. La madeleine, ok, elle est savoureuse, mais on ne peut pas la saisir à pleine main. On la respire, mais on ne peut remordre dedans.
Alors, dites-nous un peu, quels sont les moments qu'il revit?
Bah, ses rencontres, évidemment, avec ses camarades de lycée, tout ça. Toutes ses petites copines, il y en a eu. Son éducation sentimentale, en fait. Et il n'a rien oublié, ni les programmes qui passaient à ce moment-là. Il suivait les émissions sur la guerre et la gestion du conflit par François Mitterrand, grâce, à l'époque, à Guillaume Durand. Il écoutait des Guns N' Roses, il portait des bombers et des bandanas, c'est douteux. On sourit parce qu'on sait que les flashs que l'on retrouve dans cette période de la vie sont souvent extrêmement précis et précieux, car la jeunesse s'enfuit, malheureusement elle ne reviendra pas.
Alors il nous décrit aussi sa ville.
Ça m'a donné envie direct d'aller découvrir Brest, là sur le champ. Il en parle très très bien, il connaît toutes les rues, toutes les adresses où il a fait les 400 coups. En fait, notre héros avait rejeté tout cela tant qu'il ne s'était pas trouvé. Alors pour résumer, je vous dirais qu'entre 25 et 40 ans, il a beaucoup profité de la vie, il a fait la fête, il a multiplié les conquêtes, et depuis qu'il est heureux, il a une vie plus simple, plus calme, il a besoin de renouer avec son passé, de revenir au commencement.
C'est dingue, j'ai l'impression de me voir. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui ressort de ces mots?
Beaucoup de langueur, un peu comme je vous disais tout à l'heure. Ce que j'aime, c'est la superposition des deux époques. Alors à un moment, on suit son père dans le désert, à Riyad, alors que les moyens de communication n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, on suit l'ado Arnaud, inquiet pour lui, pour son papa depuis la Bretagne, qui dispute des matchs de basket, qui fait des bulles de chewing-gum et drague les filles. Et puis on le retrouve en 2018, donc auteur, homme qu'il est devenu, vivant ce moment hors du temps, la plage en Bretagne, sa fille, ses parents, alors qu'il a enfin la possibilité de se poser et de se poser la question, qu'est-ce qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu.
C'est assez doux, on dirait.
Sans aucun doute, comme un été, vous savez, qui ne finirait pas. On sent la lumière, la douceur, la lenteur. Arnaud Le Guern, il nous invite à ne pas négliger la douceur des choses, c'est important.
Et alors, est-ce qu'on s'y retrouve, nous, les lecteurs?
C'est certain que si on avait une quinzaine d'années à ce moment-là, dans les années 90, on s'y retrouve plus que les autres, parce qu'on s'identifie. Mais en fait, ça parlera quand même à tout le monde, les images sont belles, la quête, elle est juste, et le moment, il est entre parenthèses. On a envie d'être en été, là, sur la plage, de penser à sa jeunesse, et puis de lire Arnaud Le Guern pour une belle mise en abîme.
Merci beaucoup pour ce conseil lecture, Frédéric Le Ternier. J'en rappelle le titre, Une jeunesse en fuite, signé Arnaud Le Guern. On dit comme ça.
Ah oui, vous, vous parlez bien le breton. C'est
ouais.
Ça
bah vous savez, j'ai beaucoup entendu le loup, le renard et la belette, donc ça aide hein, quand même. Hein. C'est aux éditions du Rocher. La suite est moins claire, évidemment. Dans un instant, vous restez avec nous pour la suite de ce Mag Loisir samedi. On parlera notamment de cet hommage à Jacques Ferrand. Avec vous, Vanessa Lambert, c'est l'Actu Sport. Il y aura un grand quiz musical à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Ce sera Éric Bastien et puis nous terminerons avec la télé de Patrice Gascoigne tout de suite. J'espère que votre week-end se déroule bien, on est ravis de le passer avec vous pour au moins une toute petite demi-heure, celle consacrée au Mag Loisir.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Un Mag Loisir qui se poursuit dans quelques minutes avec la télé de Patrice Gascoigne, l'actu musique d'Éric Bastien et tout de suite le sport avec vous, Vanessa Lambert. Vous avez décidé de rendre hommage à un homme que l'on connaît tous sans forcément connaître son nom.
Il s'appelait Jacques Ferrand. Il est décédé le 7 février dernier à l'âge de 98 ans. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu énormément de choses à son sujet depuis son décès. Et je me suis dit, mais mon Dieu, cet homme était incroyable. Alors Jacques Ferrand, pour résumer, il était journaliste sportif. Il est rentré à l'équipe en 48 et il avait ce qu'on appelle une plume, vraiment. Ça pourrait s'arrêter là, mais en fait non. En avril 55, avec certains de ses collègues de l'équipe, ils ont l'idée de créer la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions. En fait, la vraie idée de départ, elle est de Gabriel Hanau, qui était le reporter vedette de la rubrique foot. Mais ils ont fait ça à plusieurs et comme Ferrand savait bien écrire, c'est lui qui rédigera les règlements de cette Coupe d'Europe. L'année d'après, première Coupe d'Europe entre le Real Madrid et le Stade de Reims et c'est Jacques Godet, le patron de l'équipe qui remet le trophée à Santiago Bernabéu, le capitaine du Real, en lui glissant ces quelques mots « Prenez-en bien soin, car cette coupe, c'est l'enfant de l'amour. » C'est magnifique.
Ah, c'est beau comme une chanson d'Enrico Macias.
Ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, non. Jacques Ferrand, en passant de l'équipe à France Football, a une autre idée, celle du Ballon d'Or. C'est donc à lui que l'on doit ce fabuleux trophée, d'abord décerné au meilleur footballeur européen, puis étendu au niveau international, et qui a été racheté à un prix exorbitant récemment par la FIFA.
Ah ouais, non, mais c'est complètement fou. Tout ça pour un seul homme. Et il a fait d'autres choses, hein, ce Jacques Ferrand, à qui vous rendez hommage, Vanessa.
Oui, il était très proche des instances du sport en général. Il a travaillé étroitement avec Fernand Sastre, qui était le président de la Fédé. Il réfléchissait beaucoup aux règles du jeu avec lui. Il a été un défenseur de l'usage de la langue française face à tous les anglicismes dans le vocabulaire sportif. Il était bien plus qu'un excellent journaliste sportif. Il a contribué vraiment à moderniser et à populariser le sport.
Alors, est-ce que d'autres journalistes sportifs ont eu un rôle important dans le sport autant que lui ?
Eh ben, il y en a pas mal. C'est un journaliste, Jules Rimet, qui a créé la Coupe du Monde de football. C'est un journaliste sportif, Henri Desgranges, qui travaillait au journal L'Auto, l'ancêtre de l'équipe, qui a eu l'idée du Tour de France cycliste. Il l'a d'ailleurs dirigé jusqu'en 1936, année où il a laissé la place à un autre journaliste de l'équipe, Jacques Godet. Et la tradition perdure, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours un journaliste, Christian Prodhomme, ancien journaliste de France Télé, qui s'occupe de la grande boucle. Philippe Châtrier, qui travaillait pour le mensuel Tennis de France. C'est grâce à lui aussi que Roland-Garros est ce qu'il est. Le monde du tennis boudait la compétition parisienne, qu'il trouvait has-been, préférant Wimbledon. Il a tout remis à plat, il a dépoussiéré tout ça pour faire de Roland-Garros qu'on connaît aujourd'hui. Ces journalistes sportifs étaient bien plus que des journalistes. Ils ont transformé le sport, les jeux du sport, en plus de nous avoir fait vibrer par leurs écrits, leurs éditos enflammés. C'est important quand on aime le sport de ne pas oublier ces grands hommes d'une autre époque, c'est vrai. Et c'est pour ça que le décès de Jacques Ferrand a fait beaucoup réagir ses collègues, les grands du sport en général. Le journal Le Monde écrivait à son sujet, à son décès, il incarne une époque où le sport moderne était encore à inventer et où la presse sportive participait ardemment à son élaboration.
Eh bien, merci pour ce très bel hommage, Vanessa Lambert. Jacques Ferrand, qui donc nous a quittés il y a peu, 98 ans tout de même. Hein.
C'est belle vie, une belle vie,
bien remplie. Merci pour ce vibrant hommage. Allez, tout de suite, on passe à la musique.
Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes à la Porte de Versailles, ici à Paris.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui même. Éric Bastien, ça vous a inspiré pour l'actu musique. Vous nous invitez à la ferme pour un grand quiz musical. Attention, avec des animaux.
Oh oui, alors quiz avec des animaux dans la chanson.
Et ils vont entrer dans le studio.
Pourquoi pas? Les animaux de la ferme, il y en a pas tant que ça dans la chanson, donc j'ai ratissé large. Ce sont, vous l'avez bien compris,
des animaux
que l'on peut retrouver pour certains au Salon International de l'Agriculture, un événement Radio France et France Bleu. Voilà. Voici le premier.
C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins.
Bon alors, Alexis Thibault.
Oh, bah c'est la danse des canards.
Oui, non, d'accord, mais attendez, mais il faut donner le titre, il faut donner le
soit
le chanteur,
titre, soit l'interprète. Hein, soit le titre, soit l'interprète.
On connaît pas le chanteur.
Eh ben justement, Gigi Lionel. La danse des canards. Gigi Donnel. Personne n'a oublié. Voici le suivant. Arnold Derek.
Ouais, Marie Myriam.
L'oiseau.
L'oiseau.
Et l'enfant. L'oiseau.
Bien sûr, l'oiseau. Oui.
Bien, on continue.
On a plein la ferme.
Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines.
Stu Ball de Hugo Frey.
C'est le petit âne gris. Le petit âne gris.
Ouais, non, mais c'est, Ball, non.
C'est le petit âne gris de Hugo Frey. Là, vous pourrez en voir au Salon international de l'agriculture.
Beaucoup,
ouais. Bravo, félicitations, Vanessa.
Parle tant tout lui dire. Parle tant tout lui dire. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Attends.
Frédéric Letourneau.
Ah non, je ne l'ai pas.
On est dans les années 80.
Oui, ah oui, cœur de loup, cœur de loup.
Cœur de loup,
ah,
et
Jean Leloup.
Et c'est
La Fontaine.
Philippe La Fontaine.
Exactement, exactement. Encore un bon point pour Arnold Derek qui gagne depuis le début, hein, on est d'accord.
Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant, oh, car le gorille
quand même, s'il
n'a jamais
plaît.
Connu de
gorille. C'est gorille.
Exactement, Caro Gorille. Et ça, c'est
Georges Brassens.
C'est Georges Brassens, bien sûr. Il n'y a pas de gorille hein, au Salon international de l'agriculture.
Ou alors à l'entrée.
C'est pas faux, il y en a même plusieurs.
Il y a qui le kiki. Il y a qui le joutiti toutou.
On me dit Patrice Gascon. Hein.
Oui, c'est la régie un petit peu quand même. Bah, effectivement, je l'ai dans mon iPhone, c'est le Yuki de Richard Gauthier.
C'est une
préférées.
Bonne réponse. Le Yuki, des chiens qui viennent avec leur maître pour visiter ce salon international de l'agriculture qui commence aujourd'hui. Oh, c'est facile, hein, Arnold Derek.
Oui, Chantal Goya.
Avec le...
Le lapin le qui lapin. Tue un chasseur.
Exactement, vous enverrez des petits lapinous tout mignons pour ce salon international de l'agriculture
c'est
Port
vrai
de Versailles.
Véronica l'anaconda et Irène la murène et Milou le hibou et Polo le corbeau et Muriel
que
le
l'hermine.
Pascal Obispo.
Il m'a apprécié. Non.
C'est un vieux truc breton, ça.
Ça s'appelle La Ferme. Et c'est les Fatal Picard qui avaient représenté la France à l'Eurovision. Et ça s'appelle La Ferme. On continue, on en a encore quelques-uns, c'est parti.
Dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
Arnold Derek l'a évoqué tout à l'heure.
Bah oui.
Bah oui.
Non, mais je l'ai, moi.
Alors, Vanessa Lambert, on nous dit.
Je veux, c'est Trian avec
Trian.
C'est très con,
Trian.
Non, on dit Trian en breton.
Bon,
Trian,
c'est bizarre, il y a trois gens.
Le loup, le renard et la belette.
Et bah, c'est une
bonne réponse. C'est pas le titre. C'est pas ça le titre.
Patrice Gascoigne.
Eh oui, ben oui, c'est Le Lion est mort ce soir.
Et c'est de beau, c'est une chanson d'Henri Salvador. Je reviens sur ce qu'a dit Arnold Derek.
C'est la jument de Michaud.
C'est toujours Arnold qui a raison. C'était bien la jument de Michaud juste avant. Allez, il nous en reste encore un. Frédéric
Le
Ternier.
C'est le papa pingouin.
C'est le papa pingouin.
Deux, qui chante. J'ai pas l'auteur.
Ah, bah, c'est Alexis.
Le papa pingouin. Si c'est pas Dorothée ou quelque chose comme ça. Non,
c'est pas Dorothée. Ne me demandez pas parce que c'est Pingu. Le groupe s'appelait Pingu et c'était à l'Eurovision il y a quelques années.
Non, mais ça, c'est vous. Vous faites la fête avec vos amis. Vous enregistrez un truc.
Et on a perdu donc à l'Eurovision avec cette.
Super Banco. Voici le tout dernier titre avec des animaux dans la chanson. Vous êtes prêts?
Oui.
C'est parti.
Et tu sais, les lions sont vraiment des.
C'est Vanessa Lambert.
C'est Yannick Noah avec les lions.
Eh ben oui, voilà. Les lions, Yannick Noah, pas de lions à nouveau au Salon International de l'Agriculture. Mais en tous les cas, vous allez vous régaler. Ça commence aujourd'hui. Et Frédéric Le Ternier, il sera mardi, mercredi et jeudi entre 13h et 14h.
Dans une heure en France, oui. Oui, voilà.
Une heure en France avec Denis Farou.
Tout à fait.
Hein, vous essayerez de ne pas l'oublier comme l'année dernière.
Non, pas aux portes du salon en tout cas.
Voilà, parce que Denis Farou, vous lui lancez un saucisson, vous ne le revoyez plus pendant 4 semaines. Hein, il faut le savoir.
Il sera content.
Exactement. On l'embrasse, Denis Farou, bien évidemment. Merci pour ce quiz musical très sympathique, Éric Bastien. Merci beaucoup.
Un événement France Bleu. Hein, ça
un événement France Bleu. Et nous passons tout de suite à la télé de Patrice Gascoigne.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Alors Patrice, il y a du nouveau le samedi soir sur France 2.
Du nouveau et des animaux aussi, effectivement, en général, le samedi soir sur France 2, on a plutôt l'habitude d'entendre ça.
Et on fait tourner les serviettes.
Ah, c'est génial, oui, Patrick c'est Sébastien génial, qui fait danser petite et grande serviette le samedi soir. Mais tout cela, c'est fini, terminé. Patrick Sébastien, vous le savez, a été viré. Restez maintenant à savoir ce que France 2 allait mettre à sa place, à la place des divertissements du samedi soir. Eh bien, la réponse, vous allez la découvrir ce soir, mais aussi samedi soir prochain, place à du documentaire nature animalier, autre ambiance, donc ce soir, avec le plus beau pays du monde. Les deux premiers numéros de cette marque, le plus beau pays du monde, avaient rassemblé 5 et 7 millions de téléspectateurs. Le réalisateur Frédéric Fougère revient avec un troisième film très fort, très beau. Il nous plonge au cœur d'une terre qui est encore sauvage, les Alpes. Et vous verrez que les Alpes, ce ne sont pas que des remontées mécaniques, c'est aussi une nature, des animaux qui recèlent des secrets. On va écouter la bande-annonce. Je vous laisse découvrir quel comédien pose sa voix sur ces belles images de Frédéric Fougère. Des images d'animaux bravant un territoire hostile où l'hiver dure 8 mois.
Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits? À conquérir des territoires? À parcourir des distances immenses? Comment résistent-ils dans ces conditions infernales? Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux profondes vallées. Voici les destinées surprenantes de ces voisins animaux en prise avec la violence des éléments.
Alors, qui parle? Qui pose sa voix?
Alors, je reconnais la voix d'Edouard Philippe.
Non, pas exactement. Il est un petit peu plus jeune, un petit peu plus brun. C'est qui?
C'est plus jeune.
C'est Gérard Lanvin.
Ah ouais? Ah
ouais, oui, petite mise en ambiance du plus beau pays du monde.
Il n'est pas plus jeune, pardon.
Non, il n'est pas plus jeune, effectivement. Sur France 2, nous suivrons notamment les aventures d'une louve condamnée à l'exil après la mort de son compagnon tué par un ours. Nous suivrons aussi le voyage d'un gypaète barbu. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gypaète? C'est un oiseau, une sorte de vautour qui cherche son lieu de naissance. Nous ferons aussi face aux élans romantiques d'une grenouille rousse dans les lacs gelés. Nous serons subjugués par le destin étrange d'un vieil arbre immortel. Le plus beau pays du monde, c'est plus de 3 ans de tournage, souvent dans des conditions difficile pour capturer ces moments d'intimité, ces animaux dans des séquences extrêmes. Le résultat est magnifique, mais est-ce que pour autant cela valait une programmation à 21h un samedi soir? La réponse de Catherine Alvarez, la directrice de l'unité documentaire de France Télévisions.
Pourquoi le samedi soir? C'est parce que ça permet en fait de faire une vraie contre-programmation, une vraie contre-proposition pour le groupe de France Télévisions. Sur France 3, on a de la fiction. Donc c'était vraiment assez naturel finalement, sur France 2, de se dire quelle contre-proposition TF1 est très très divertissement. Donc nous, c'était de se dire, eh ben, proposons des documentaires grand public, parce que quand même, l'histoire naturelle, c'est ce qu'il y a de plus grand public, qui touche un public familial, qui est à la fois divertissant, puisque c'est quand même le spectacle de la nature, donc c'est quelque chose de très pour le samedi soir. Et pourquoi France 2? Bah parce que France 2, c'est la chaîne de l'événement, donc ça permet quand même d'accueillir et faire un écho plutôt plus que voilà, un bel écho à des films qui sont quand même des films de premier choix.
Catherine Alvarez de l'unité documentaire de France Télévisions qui nous présente Le plus beau pays du monde, c'est ce soir sur France 2, et samedi prochain, ce sera Les Félins qui seront mis à l'honneur avec un magnifique documentaire encore.
Eh bien merci Patrice Gascoin, c'est une programmation audacieuse de la part de France 2, ouais. Ça s'annonce vraiment formidable.
Beau combat face à The Voice.
Oui, beau combat effectivement, et puis une vraie mission de service public, hein, c'est ça effectivement, tenter des programmes différents le samedi soir, pourquoi pas, merci.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Et voilà que se termine le Mag Loisir du samedi. Oh. Si cette émission vous a plu, il faut y aller à un moment donné. Hein. Si cette émission vous a plu ou si vous n'avez pas grand-chose de mieux à faire, retrouvez-nous demain dimanche. Nous aurons encore plein de conseils pour vous, comme par exemple des nouvelles de la Reine des Neiges. Alors non, on n'en est pas libéré, encore moins délivré, hein, Alexis Thiébaud.
Oui, je vous dirais qu'effectivement, elle est de retour. Elle sera en 2020.
Oh voilà, une envie de lire un bon polar. Et en plus, vous voulez en savoir plus sur la Finlande. Alors ça, quelle coïncidence, c'est exactement ce dont vous parlera Frédéric Le Ternier demain dans son conseil lecture.
Avec un joli titre, Dernier mètre jusqu'au cimetière.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Vous connaissiez les compétitions de fleuret ou de sabre? Et on est d'accord, c'est d'un ennui, voilà. Non. Dans l'actu sport de demain, Vanessa Lambert vous prouvera qu'on peut toujours trouver pire avec la compétition de sabre laser.
Tout à fait.
J'en reviens pas d'avoir prononcé une phrase pareille, Vanessa.
Eh oui, c'est une vraie compétition, c'est très sérieux et je vous en parlerai demain de sabre laser.
Demain dimanche, pas une nouveauté musicale n'échappera à notre fin limier mélomane Éric Bastien. Vous reviendrez avec une tonne d'artistes, dont Kenji Girac et Claudio Capeo en duo, ou encore Christine and the Queens.
Et même le nouveau
nouvel album de Gauvin Serres, le creusois que l'on adore, qui est de retour dans les bacs fin mars.
Enfin, côté télé, on ne va pas s'ennuyer avec les choix de Patrice Gascoigne, de la diversité avec une mini-série sur Arte, et puis Star sous hypnose, ça c'est sur TF1, Patrice.
Oui, Grégoire Collin sera là pour Arte et Mesmer avec nous.
On sera ravis donc de vous avoir avec nous demain pour un nouveau numéro du Mag Loisir Weekend. Si vous ne pouvez pas être des nôtres, un mot dans le carnet ou un certificat médical, merci. D'ici là, vous prenez soin de vous. Vous restez sur France Bleu, on vous embrasse.